Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix, Gérard Kerr ou Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Ils sont près de 150 000. Les affiliations au LR se multiplient. Ils auront du 1er au 4 décembre pour décider de leur candidat. Candidat pour qui ils ont d'ailleurs un énorme espoir. Odoxa pour le Figaro, 75% des sympathisants LR estiment que leur candidat pourra remporter la présidentielle. Notons quand même au passage, et on va y revenir, que le 5 décembre, un certain Éric Zemmour tiendra un meeting politique au Zénith de Paris, donc juste après le 4 décembre. Autre avènement, celui d'un homme fort des LR à la tête des maires de France, David Lisnard, maire de Cannes, pourrait bousculer les codes. Les LR ont le vent en poupe, le sourire aux lèvres. Est-ce qu'ils ont raison?
C'est le réveil de la droite. Il y a eu quand même une sorte de passage à vide, je dirais, de la droite. Quand je dis la droite, je veux dire la droite LR, la droite qu'on appelle par ailleurs de gouvernement ou républicaine, etc. Disons qu'on met à part. Eh bien, il y a un réveil militant. On a vu qu'ils ont doublé, avec les inscriptions en gros, ils ont presque doublé le nombre des militants, de 75 000 à 150 000. Des débats relativement intéressants. Je pense que celui de demain sera sans doute le plus intéressant. D'abord parce qu'il sera sur Europe 1 aussi et sur CNews. Oui. Mais c'est une blague, ça. La vérité, c'est qu'il sera le plus intéressant parce que c'est le dernier, donc c'est celui qui a...
Non, c'est le troisième, il y a encore un.
France 2.
Donc ça ne sera pas le plus intéressant.
Non, Gérard, l'apothéose sur France 2 avec Léa Salamé.
Oui, il y a un réveil. Pourquoi il y a un réveil? Parce que, pour une fois, moi j'entends une petite musique d'une droite qui parle à droite. D'habitude, j'entendais la droite, elle parlait gauche un peu, elle parlait centre, elle parlait... J'entendais jamais une droite qui assumait des propositions
là,
de droite.
Droite.
Et là, la droite, je parle de tous les candidats, Madame Pécresse parle à droite, Monsieur Bertrand parle à droite, et tout. Et puis la révélation Ciotti, dont on a
mais
souligné...
Mais il faut reconnaître d'ailleurs que Ciotti est pour quelque chose,
non, mais en tout cas, la droite parle à droite.
Je pense que Ciotti a toujours parlé à droite.
La révélation Ciotti, c'est effectivement que non seulement il a parlé à droite, toujours, il a donc la constance et en plus, il a un peu entraîné les autres.
Non, il a inoculé le virus de la droite réelle à ses autres partenaires.
Pardonnez-moi, mais c'est Zemmour qui l'a...
Donc
tout le monde a joué, mais...
Catherine Ney.
Oui,
non, c'est pas Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est Ciotti.
Oui, mais Valérie Pécresse a été aussi sur cette ligne vis-à-vis de l'immigration.
La droite est à droite.
La droite est à droite et... La droite ne se déchire pas comme lors de la première primaire.
Absolument.
C'est deux choses qui comptent énormément. Je ne sais pas si un candidat LR a des chances, mais je dis que les gens ont vu qu'il y avait un pack idéologique qui s'entend, qui a de l'expérience et qui peut gouverner si le cas échéant. Bon. Mais il y a une bagarre intéressante, c'est vraiment l'élection de David Lisnard à la tête
de
l'AMF. Et ça, c'est un succès politique pour la droite, parce que l'appareil d'État s'est mis en branle pour faire élire Philippe Laurent, qui était Macron compatible. Les préfets allaient dans les régions, faisaient dire aux maires qu'il valait mieux Philippe Laurent. Les ministres se sont déplacés parce qu'avant cette grande réunion des maires, il y avait des assemblées départementales tous les mois avec avec les maires des départements. Et les ministres venaient dire bonjour.
Ah ben les ministres se déplacent comme au régional à l'époque.
Comme au régional. Bon, après... Thierry Soler a été très actif aussi pour... Et on faisait dire que...
Pourquoi ?
Comment ? Pour téléphoner au maire et leur dire de... Voilà. Bon.
Le candidat
et puis
officiel,
pour la première fois aussi, les deux candidats se présentaient avec des équipes choisies, c'est-à-dire avec un pack déjà de deux candidats qui avaient à la fois leur bureau de 60 membres et leur comité directeur de 100 membres. Et donc, c'était des équipes, et pour Philippe Laurent, de Macron compatibles. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui a peu de maires qui sont en marche, pouvait, grâce à ça, dire qu'il gouvernait en marche. Voyez donc, et là, ce succès avec 62% des voix du maire de Cannes, qui a fait une campagne personnelle en prenant le train, en payant ses billets de train, en allant voir les gens et en leur montrant qu'il n'était pas uniquement le maire de Cannes. Il connaissait la ruralité parce que c'est le procès que lui faisaient les macronistes. Eh bien, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire de la droite.
Oui. Alors, et d'ailleurs, victoire, les macronistes l'ont attaqué. Par exemple, Muselier, qui avait été, lui, un peu flou pendant cette campagne des élections régionales, a été le premier à attaquer Lisnard.
Et aussi, alors, maintenant, le maire de Nice.
Michel,
vous battez pas.
Bon, il est indéniable qu'il y a eu un réveil militant des Républicains. des adhérents, de toute façon, qui ne payaient plus leurs cotisations, ou de nouveaux adhérents, notamment chez les jeunes. Mais il ne faut pas l'exagérer non plus. Il n'y a pas de, si vous voulez, une dynamique sondagière, notamment. On ne remarque pas, sur les principaux favoris, capables d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, un boom extraordinaire dans les sondages. Ça, il faut quand même raison garder sur ce plan-là. Il y a une manifestation d'intérêt, c'est indéniable, mais il n'y a pas de dynamique sondagière.
Voilà. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre.
En ce qui concerne le maire de Cannes, sincèrement, David Lisnard, ce n'est pas de la tisane. Et je pense que le chef de l'État va s'en rendre compte. D'abord, c'est un émule, mais un émule vraiment élaboré de Pompidou. Hein, c'est un garçon que je connais assez bien. C'est un élu local. Et le président de la République, avec la taxe d'habitation qu'il a supprimée, avec bien d'autres mesures, s'est aliéné les maires. Et un nombre considérable de maires qui sont ligotés aujourd'hui, qui sont devenus presque des agents d'État. Et David Lisnard les représente très très bien. Il a pour allié quand même autour de lui les socialistes, André Léniel, le vice-président, bon, et puis aussi jusqu'aux communistes. Et c'est en cela que je dis que ce n'est pas de la tisane, parce qu'il va se faire connaître, il va faire connaître ses idées du grand public, c'est-à-dire des Français.
Michel Cotta.
Je pense à la réaction de la droite. Au fond, on s'aperçoit que quand les sondages étaient avec un Bertrand à 14, Zemmour à 16 et Marine Le Pen à 15, au fond, tout était possible. Et ça, c'est ce qui a déterminé, par exemple, quelqu'un comme Bertrand à intervenir autant. C'est qu'il se disait, à un point près, on peut être le deuxième. Là, pour le moment, alors je sais qu'il faut, accorder au sondage une place. Il faut raison garder, mais pour le moment, Marine Le Pen se redétache à nouveau. Et dans ce cas-là, évidemment, ça condamne peut-être les Républicains au troisième rôle. Il reste qu'au bout du compte, ils auront complètement dominé le mois de novembre. C'est autour d'eux qu'on a fait les papiers, contrairement au mois d'octobre où on était vraiment complètement concentré sur Zemmour. Et donc, quelque part, ça apparaît comme un parti encore de gouvernement, mais il n'y a pas d'incarnation. Alors, le PAC, moi, je suis d'accord.
Pas encore, il faut attendre le 4 décembre pour l'incarnation.
Voilà, d'accord, mais je ne suis pas sûr que dans les 5, il y ait une incarnation possible.
Ça serait une incarnation forcée.
Mais ils ont un atout, Michel. Certes, c'était le mot préféré de Louis XI, certes. Oui. Mais il y aura un seul candidat, des cinq, il y aura un seul candidat le 4 décembre au soir. Et c'est un atout, parce que là, pour l'instant, les sondages, auxquels tu faisais allusion à juste raison, sont disséminés entre les différents candidats. Tout ça sera regroupé.
Et puis, il y a aussi une grande incertitude, c'est quand même qui a adhéré, quels sont les nouveaux adhérents et vers qui.
Comme le disait Catherine Ney, ils ne s'écharpent pas, donc du coup, il y a une forme de cohésion et c'est très important.
Un mot avant la pause, si j'ai bien compris, je voudrais juste dire un mot, on revient. On a pensé à un moment donné que le match pouvait être plié. Il y avait donc le match avec Zemmour et Marine Le Pen et que les Républicains, quelque part, ne seraient pas. Les Républicains reviennent dans le jeu avec leur candidat ou leur candidate, je ne sais pas laquelle, et tout restera possible après le 5 décembre pour le deuxième tour. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit Marine Le Pen, soit Zemmour, soit le candidat ou la candidate des Républicains. Et ça, ce n'était pas évident il y a encore quelques mois.
Une pause et les grandes voix reviennent dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
De retour sur le plateau des Grandes Voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Vous avez ce sondage d'Oxa pour le Figaro et parmi les candidats à l'investiture des Républicains, il y a ce sondage en termes de pourcentage de bonne opinion. Celui qui arrive en tête, c'est Xavier Bertrand, 42% pour l'ensemble des Français, 86% pour l'ensemble des Républicains. Il y a eu pas cette passe d'armes, mais disons cet échange, ce tête-à-tête extrêmement, j'allais dire, violent hier sur les terres du Nord entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui se pose comme étant le principal adversaire d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a encore dit hier.
Bah oui, ça aide plutôt, moi je trouve que ça aide plutôt Xavier Bertrand que le président soit allé le voir sur ses terres, parce qu'au fond, on a l'impression que c'est aux yeux du président de la République, le premier des adversaires à l'intérieur.
Et du coup, il a volé, la vedette à Marine Le Pen, qui disait aussi que c'était son principal adversaire,
Donc, au fond, c'est une bonne opération pour Xavier Bertrand.
Mais il a toujours fait la course en tête, hein, depuis qu'il est parti avant les autres. Même si ça a jamais, il n'a jamais plié le match, comme on dit.
Le deuxième, c'est Michel Barnier.
Mais il a toujours été en tête, tout au long de ces derniers mois. Ça veut quand même dire quelque chose. Donc, il est quand même, il me semble, il est quand même plutôt le favori de la compétition qui va avoir lieu dans quelques
semaines. N'oublions pas quand même que ce sont les adhérents des LR qui vont voter. C'est un vote interne, ce n'est pas le vote des Français. Pour l'instant.
Oui, oui, moi je sens rien du tout. Alors c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que dans ces deux émissions, par exemple, à la première émission, j'avais trouvé que Michel Barnier était un peu. J'attendais mieux.
Il manquait de tenue.
Mais la deuxième émission, chacun a eu son moment avec tout d'un coup de l'autorité. C'est-à-dire, on cherche celui qui a le fluide de l'autorité. Bon, et moi je dirais que. Chacun a son moment, vous voyez.
Merci pour ce moment.
Il y en a un qui peut être le faiseur de roi, c'est Ciotti. Parce que s'il est lui-même, ou il est lui-même dans les deux qui restent en lice pour le deuxième tour, Éric Ciotti.
Mais pour l'instant, dans les deux débats, il a été lui-même.
Donc l'un des finalistes, ou il est en troisième position, et il peut être celui qui apporte son concours, qui sera le faiseur de roi.
Ciotti, il marque au fond la difficulté. Des Républicains, c'est la difficulté d'avoir un espace. Parce qu'au fond, il a dit qu'il se replierait au deuxième tour éventuellement pour Éric Zemmour. Donc, au fond, il incarne...
Si Zemmour apparaissait...
Oui, bien sûr. Il est le plus béton, il est le plus à droite. Et au fond, est-ce qu'il y a encore... C'est la question qu'on se pose sans arrêt. Est-ce qu'il y a encore une place pour une extrême droite façon... Ciotti, républicain, extrême droite, etc.
Mais pas extrême, une droite qui s'assume, mais pas une extrême droite.
Est-ce qu'il y a de la place Est-ce qu'il y a un espace pour les républicains pro-Macron, parce que pendant ce temps-là, quand même, ce qu'on appelle la maison commune est en train de se faire avec Édouard Philippe. Donc, est-ce qu'il y a une place, et ça, c'est très intéressant,
d'ailleurs que cette maison commune n'a rien de commun
entre l'extrême droite et la droite macronienne. Voilà.
Oui, mais à ta question, je réponds, je crois que oui, il y a une place.
Voilà, c'est la démonstration.
Place d'une droite qui s'assume comme telle sur des valeurs de droite et non pas sur des valeurs qui étaient des valeurs UDF, comme on disait autrefois, c'est-à-dire des valeurs centro-molles.
Oui, mais c'est ça l'intérêt du jeu.
Il y a quand même un homme politique à qui il faut tirer un coup de chapeau. Qu'on l'avait traité de fossoyeur, c'est le président des LR qui a été assez patient, Christian Jacob, pour reconstituer son équipe aujourd'hui, en tout cas celle des Républicains, et qui de toute façon est en vedette, ne serait-ce que demain soir, sur CNews et sur Europe 1.
Mais c'est vraiment lui qui l'a fait ou est-ce que ça s'est fait tout seul?
Il a beaucoup travaillé pour ça, beaucoup consulté. Non, mais c'est ce qu'il voulait.
Il voulait surtout pas recommencer l'épreuve de la primaire ouverte
de 2016,
et de 2016 qui avait beaucoup cassé la famille. Et là, il valait mieux rester entre soi et il a eu raison.
Les grandes voix reviennent dans un instant et on va parler de la pêche. À tout de suite.